un homme coupe du bambou toute la journée. Il habite avec sa femme dans une maison en bordure de la forêt. C'est son métier. Couper des bambous pour les vendre au marché. Un jour qu'il rentre, fatigué, harassé, ployant sous le fardeau, il aperçoit... Là, parmi les jeunes pousses, une lueur. Il s'approche, il se penche. Ça alors? Mais ça alors? Une petite fille? Mais c'est pas croyable! Une petite fille, pas plus haute que son pouce. Il la prend délicatement, il la ramène à la maison. Enfin un enfant! Sa femme et lui la cajolent, la dorlotent. Lui, il lui fait un petit berceau en bambou. Et puis il la prénomme Kagyaim, princesse de lumière. Le lendemain, il retourne à son travail pour couper les troncs de bambou. Mais comme un miracle n'arrive jamais seul, le soir, quand il rentre là, parmi les jeunes de pousse, une nouvelle lueur, une nouvelle lumière, une nouvelle petite fille, un petit garçon. Les ramène à la maison. Et puis le lendemain soir, encore une fois, 3 pièces d'or. Il les ramasse, les ramène à la maison, les met de côté. Et encore un soir, et encore un soir. Si bien que pour finir, il devient riche, le coupeur de bambou. Il peut arrêter de travailler. Il se construit même une maison à la ville pour lui, sa femme et sa fille. Ah, Kagyaim, elle grandit, elle devient belle. Et bien sûr, les jeunes gens des alentours viennent lui faire leur cour. Mais les garçons n'intéressent pas du tout Kagyaim. Pourtant, il y en a 5. Qui restent devant la porte, qui sont persévérants. Le père de Kagyaim commence à être un peu gêné. Enfin, Kagyaim, tu sais, tu peux pas laisser 5 jeunes gens comme ça devant la porte. Il faut que tu choisisses. Soit tu en choisis un et tu renvoies les autres, soit tu renvoies tout le monde. Kagyaim, elle réfléchit. Et puis elle se dit que tiens, elle va leur lancer un défi. Chacun d'entre eux doit lui ramener un cadeau merveilleux. Le premier, une écharpe de soie, couleur de soleil et légère comme le vent. Le second, un bol de cristal avec de la poussière d'étoiles. Le troisième, un oiseau chanteur aux 1000 couleurs. Le quatrième, un collier de perles de lune avec un œil de dragon. Et le cinquième, des abricots d'or sur une branche d'argent. Les jeunes hommes se préparent à partir quand... Attention, une condition. J'épouserai celui qui me rapporte le cadeau merveilleux à condition que celui-ci ne s'abîme ni ne se ternit en ma possession. Ils partent tous, chacun dans leur direction. Un ne revient pas, trop compliqué, il abandonne. Un second se fait foudroyer en route, mort sur le champ.
Oui, mort.
Le premier revient avec l'écharpe de soie, couleur de soleil et légère comme le vent. Au moment où il veut le déposer sur les épaules de la jeune fille, celui-ci se déchire et s'en va dans le ciel. Quand le deuxième arrive avec la coupe de cristal remplie de poussière de lune et qu'il veut la donner à la jeune fille, celui-ci se casse en mille miettes et la poudre d'étoile s'éparpille dans le ciel. Quant au troisième, au moment où il veut poser l'oiseau de mille couleurs sur le doigt de la jeune fille, l'oiseau se tait, se ternit, devient tout gris. Aucun n'a réussi. Est-ce qu'elle est contente, Kagaïm ? Soulagée ? Fâchée ? Son visage reste impassible. On ne peut pas savoir. Elle rentre chez elle, va dans sa chambre et n'en ressort pas. Sa mère, au bout d'un moment, commence à se faire du souci. Elle toque, elle entre, elle trouve sa fille en face de la fenêtre. Kagaïm. À ce moment-là, Kagaïm se retourne en sanglots et va se jeter dans les bras de sa mère. Maman, maman, tu sais, je ne suis pas d'ici. Je viens de la lune et il faut que j'y retourne. Retourner dans la lune, mais quand ?
Quand la lune sera pleine.
Mais c'est demain ! La mère, affolée, crie, hurle, le père arrive, mais qu'est-ce qui se passe ? Il apprend la nouvelle. Tout de suite, il va appeler tous les samouraïs de la région pour qu'ils viennent décocher leurs flèches contre la lune demain soir. Le lendemain soir, tous les samouraïs sont là. Et quand la lune apparaît dans son entièreté, au même moment, ils décochent leurs flèches les plus puissantes. La lune a plus d'un tour dans son sac. À son tour, elle décoche ses rayons les plus puissants. Et chaque rayon pétrifie chaque samouraï. Kagaïm, en pleurant, s'approche de sa mère, sort de son cortège une fleur d'immortalité, une de ces fleurs jaunes qui sent le sable chaud et le miel. Et puis elle la donne à sa mère. Maman, maman, je t'aime tellement, ne meurs jamais. Et puis elle va embrasser son père. Un nuage passe devant la lune. Et derrière le nuage, un carrosse tiré par 12 chevaux qui s'approche et se pose là, juste devant la maison. Kagaïm met sur ses épaules une cape de plume et puis elle monte dans le carrosse qui s'en va. Les parents, tristes, pleurent. Pleurent toutes les larmes de leur corps, un jour, 10 jours, des semaines, quelques mois. Et puis un matin, ils se disent que finalement, plus rien ne les retient là. Ils se disent aussi que finalement, ils ont encore des bonnes jambes. Et puis que, eh ben, ils vont partir découvrir le pays. Ils se mettent en marche, baluchon sur l'épaule. Ils traversent des paysages tous différents les uns des autres. Ils rencontrent des gens, des jeunes, des vieux, des malades. Des gens simples, plus simples. Et puis, tout
tout en marchant, ils réfléchissent. Arrivés au sommet de la montagne la plus haute, ils s'asseyent. Et ils se disent que finalement, leur fille a suivi son destin, a trouvé son chemin, que à quoi bon être immortel ? La mère alors tire de son corsage la fleur d'immortalité, la hume une dernière fois. Puis le père et la mère y mettent le feu. C'est depuis ce jour-là que du mont Fuji monte une écharpe de fumée qui va embrasser la lune. C'était mon histoire, écrite à la plume.
Là, on peut dire qu'il y a des princesses de toutes sortes, assez curieuses. L'une va dans la lune, ben la mienne, elle reste sur la terre. Alors, la princesse dont je vous parle, elle est au bord d'un lac. Avec autour, il y a des forêts, et elle est habillée tout en rouge. Et sur la tête, elle a un capuchon avec des pierres rouges, brillantes, transparentes. Ce sont des rubis. Et elle est là, au bord du lac, quand passe le prince Soleil. Le prince Soleil, c'est le fils du Soleil. Il aide son père à faire le travail, éclairer, chauffer, chasser les nuages. Il aperçoit cette belle princesse et il demande bonjour. Alors cette belle princesse, il aperçoit et il demande, mais qui est cette princesse ? Qui est cette princesse que j'ai vue au bord de ce lac ? Mais voyons, c'est la princesse Naya. La princesse Naya, elle vit au fond du lac avec son père, le roi Naya, dans un beau palais, très beau, avec beaucoup de pierres rouges et de pierres, d'autres pierres. Et quand elle est au fond du lac, c'est un serpent. Un serpent, elle a la forme d'un serpent, un cobra, avec une tête rouge, une tête écarlate. Et puis quand ce serpent remonte sur la terre, qu'elle se met au bord du lac, eh bien elle devient une belle princesse. Je ne sais pas si ça plairait à tous les princes, mais le prince Soleil, ça lui donne envie de connaître cette princesse. Il descend, elle est un peu étonnée de le voir, et il lui demande de l'épouser. Bon, peut-être qu'elle attend un peu pour dire oui. En tout cas, ils se marient, et ils sont très heureux, très heureux. Pas longtemps, parce que le soleil réclame son fils. Il ne veut pas que son fils traîne autour du lac, dans la forêt, alors qu'il y a tellement de travail dans le ciel. Et le prince Soleil est obligé de remonter. La princesse, elle ne peut pas aller dans le ciel. La princesse, elle doit vivre au fond du lac avec son père ou aller au bord du lac dans cette forêt. Bon, ben, tant pis, ils se séparent, mais ils vont se retrouver. Et puis, ils vont s'envoyer des messages. Alors, comment on peut s'envoyer des messages il y a très, très, très longtemps ? Alors, bien sûr, pas les ordinateurs, pas les internets. Et même la poste, elle n'existe pas. Alors, comment envoyer un message ? Ben, on demande à un oiseau. Et le prince Soleil et la princesse Naya trouve un corbeau qui est blanc, parce qu'à l'époque, les corbeaux sont tous blancs. Et ils lui disent, voilà, nous, on va se séparer, on voudrait que tu puisses être notre messager. Et le corbeau est très content de cet honneur. Et le prince Soleil s'en va, la princesse, elle reste au bord du lac, mais elle est très contente. Elle est un peu triste au début, mais elle est contente parce qu'elle va pondre 3 œufs. On dirait une princesse qui pond des œufs, ça n'arrive pas trop souvent. Ben si, si justement parce que c'est un serpent. Donc les serpents pondent des œufs. Et ces œufs, ils sont beaux. Ils sont rouges, comme les rubis de leur mère, la princesse Naya, avec des dessins dorés, couleur de leur père, le prince Soleil. Et aussitôt, la princesse Naya, elle dit, elle appelle le corbeau, 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 va dire à mon mari, le prince Soleil, que nous allons avoir 3 enfants. Attention, corbeau, tu ne t'arrêtes pas en route. Jamais de la vie, jamais de la vie. Ben, le corbeau qui s'envole, qui se trouve devant le prince Soleil. Prince Soleil, votre femme, la princesse Naya, vous fait dire que vous allez avoir 3 enfants. Oh ben, le prince Soleil est très content. Il est très content, mais malheureusement, il n'a pas le temps d'aller voir sa femme. Oh, toujours le travail, le travail. Et son père qui est toujours en train de le surveiller. Mais il va dans la chambre des trésors du soleil. Alors ça, c'est une chambre qui est magnifique, qui étincelle parce qu'il y a toutes les pierres précieuses. Alors, toutes celles que vous connaissez, les émeraudes, les saphirs, les diamants, les améthystes, on voit toutes les pierres précieuses. Mais la pierre précieuse que la princesse Naya préfère, c'est le rubis. Hein. Je vous ai dit, elle a un chapeau en rubis. Alors le prince choisit un beau rubis, un énorme rubis, transparent, rouge, brillant. Il l'enveloppe dans un mouchoir de soie. Corbeau, va porter ce cadeau à mon mari, à ma femme, la princesse Naya. En gage de mon amour, pour lui prouver que je l'aime, que j'aimerais bien être à côté d'elle. Attention, corbeau, tu ne t'arrêtes pas en route. Le corbeau prend le mouchoir dans le bec, mais avant il dit jamais de la vie, jamais de la vie. Elle voit qu'il s'envole. Bon ben, il avait dit qu'il ne s'arrêterait pas en route. Ben, il ne peut pas trop s'arrêter entre le soleil et la terre, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se reposer. Mais il met du temps. De toute façon, c'est très long comme voyage. Mais là, il avance encore plus lentement. Il avance lentement parce qu'il est alourdi par ce rubis, ce paquet qu'il tient dans le bec. Et alors, il a faim, il a faim. Il voudrait tellement manger. Il voudrait tellement arriver sur la terre. Ah, quand il arrive enfin sur la terre, il est content. Il se trouve dans une grande forêt. Et là, il y a 2 marchands qui pique-niquent. Alors, je ne dis pas, c'est long, hein. Des petites boulettes et puis des petits gâteaux sucrés au miel. Le corbeau, il a faim, il aimerait manger. Surtout que ces marchands, ils laissent des miettes partout. Il voudrait. Mais s'il veut picorer les miettes, il faut qu'il ouvre le bec. Et s'il ouvre le bec, eh bien, son baluchon va tomber. Et il ne peut pas, comme ça, laisser un rubis magnifique par terre. Mais il a une idée. Il cache son baluchon. Hein? Voilà. Ah, là, il y a un endroit qui est pas mal. Il y a des feuilles mortes. Il balaye les feuilles mortes, il place le baluchon et il remet rapidement, parce qu'il a faim, les feuilles mortes. Et le corbeau, il peut manger comme il veut, toutes ces miettes de gâteau qui sont tellement bonnes. Mais le marchand, il a vu le corbeau arriver. Il a vu que le corbeau avait un baluchon dans le bec. Et maintenant, il n'a plus rien. Ah ben, peut-être qu'il a caché son paquet. Ah ah, ben, il cherche. On va voir ce que c'est que ce paquet. Il retrouve, c'est pas très difficile, parce que là, il y a des feuilles mortes, on voit bien qu'elles ont été remuées depuis peu de temps. Oh. Oh, un rubis, mais un rubis magnifique! rubis. Mais si je possédais ce rubis, je serais riche pour toute la vie. Ah, bon. Alors, vous dire, ce marchand n'est pas honnête. Il prend le rubis et le met dans sa poche. Mais maintenant, il ne faudrait pas que le corbeau s'en aperçoive. Alors, il cherche un objet dans le coin qui soit à peu près de la forme du rubis, à peu près du poids du rubis. Il n'y a pas des masses de choses dans une forêt. Ah, une bouse de vache. Attention, une bouse de vache, elle n'est pas molle, hein, elle est pas, elle sent pas mauvais. C'est une bouse de vache qui est bien durcie. Il la prend, il la place dans le mouchoir et repose le petit paquet sous les feuilles. Et le marchand s'en va rapidement. Hein. Puis le corbeau, ben, il doute de rien. Il a bien mangé, il a le ventre bien rempli, il est content. Il va pouvoir faire enfin son travail. Il reprend son baluchon, le prend dans le bec et arrive devant la princesse Naya. Princesse, voici le cadeau que votre mari, le prince Soleil, vous envoie. En gage de son amour. Alors elle est toute émue, la princesse. Oh, mon mari qui m'envoie un cadeau. Oh, ça doit être un beau cadeau. Ah, mon mari qui m'aime tellement. Ah, quelle horreur! Ah, comment a-t-il osé? La princesse, elle est bien gentille. Elle est furieuse. Elle est en colère contre nous, monstre. Et du coup, elle décide de quitter la terre. Elle rentre, elle plonge sur le lac, dans le lac. Elle retrouve son père et elle vit avec son père sous forme de serpent à tête rouge. Prince, lui, n'est au courant de rien, prince. Alors il voudrait voir sa femme à chaque fois qu'il passe devant ce lac, il regarde. Elle n'est pas là, mais elle devrait être là, elle devrait lui faire des grands signes, le remercier pour son beau cadeau. Pas là. Bon. Eh bien, à un moment, il ne voit jamais la princesse, il ne la trouve pas. Mais il voit un marchand qui a dans sa main un rubis. Mais c'est mon rubis. Mais pourquoi ce marchand possède-t-il mon rubis? Ah, je comprends. C'est le corbeau. Alors, il est très, très en colère. Le prince est très en colère. Il aperçoit un corbeau. Ouh, celui-là, je lui ai retiré les plumes. Il s'approche. Il se rend bien compte que ce n'est pas le messager. C'est un corbeau qui n'a rien fait, qui n'est pour rien dans l'affaire. Alors, il s'en va. Mais il s'est approché tellement près de ce corbeau qu'il est devenu noir, il a été brûlé. Mais le prince est toujours en colère. Ah, il se précipite encore vers un autre corbeau, se rend compte que ce n'est pas le bon, mais quand même, il le brûle. Et c'est pourquoi presque tous les corbeaux sont noirs. Bon, vous me direz, il y en a peut-être un qui est resté blanc. C'est le coupable. Si, si, coupable, il est resté parce qu'il n'était pas assez bête pour se présenter devant le soleil. Il savait qu'il n'était pas tellement estimé par le prince Soleil. Alors si vous voyez un corbeau blanc, vous saurez que c'est le messager. Mais vous me direz, j'ai parlé des œufs. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus les œufs? La princesse, elle est maintenant partie sous le lac, elle ne s'est jamais occupée de ses œufs. Mère indigne. Alors, elle avait placé ses œufs, magnifiques comme vous vous souvenez, rouges, avec des dessins dorés, elle est passée près de la rivière. Arrive la saison des pluies. Alors, la rivière grossit, elle emporte les œufs dans son cours. Et ces trois œufs, tout en suivant le cours d'eau, traversent une forêt vierge. Et il y a un œuf qui se casse contre un rocher. Il en sort un tigre. Mais un tigre merveilleux, beau, grand, plein de force. Et encore dans cette région de cette forêt vierge, il y a encore beaucoup de tigres, ce qui est rare dans le monde maintenant. Et puis, il y a un œuf qui part vers un cours d'eau, un petit affluent, une petite rivière. Là aussi, il va se fracasser contre un rocher. Et là, il en sort une pluie de rubis, des rubis mais merveilleux. Et à l'endroit où l'œuf s'est cassé, il y a la ville de Mogok. La ville de Mogok, c'est la capitale encore maintenant des rubis. Si vous voulez un beau rubis, il faut prendre l'avion et aller jusqu'à Mogok et négocier. Et puis le troisième œuf, il a continué le cours de la rivière, très lentement, doucement, jusqu'à l'embouchure, jusqu'au moment où le fleuve se jette dans la mer. Là, c'est une région où il y a beaucoup de marécages, beaucoup d'eau stagnante, d'eau qui ne bouge pas. Et lui aussi, il s'est cassé. Il y avait peut-être une pierre quand même. Il s'est cassé, s'est fracassé. Elle en est sortie un crocodile avec une gueule grande ouverte. Et c'est pourquoi les tigres, les crocodiles et les rubis sont frères et sœurs. D'ailleurs, c'est idiot ça. Ils ne ressemblent pas du tout à un tigre et à un rubis. Mais tous les frères et sœurs ne se ressemblent pas. Il y a des frères et des sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Mais tous les trois, crocodile, tigre et rubis, ce sont tous les enfants du prince Soleil et de la princesse Naya.
Alors, voilà, Odette avait dans sa famille des crocodiles, des tigres et des rubis. Eh bien, moi, je connais l'histoire d'un crocodile d'Afrique, qui est peut-être un cousin
Le mien est né d'Asie.
Oui, le mien, son cousin d'Afrique, vraisemblablement. Aujourd'hui, c'est un jour comme un autre, en Afrique, au bord du Nil. Et justement, le soleil vient de se lever, mais il fait déjà tellement chaud que le crocodile, Krakos, navigue entre deux eaux. Il navigue et on voit à la surface juste ses deux gros yeux jaunes. Et il avance comme ça, jusque sur la berge en face, parce qu'en face, il a vu les quatre sabots délicats de la gazelle dorée. Et il s'avance comme ça, tout près de la gazelle. Quand soudain, tiwit, un petit oiseau vient se mettre sur son crâne. Il sort de la tête de l'eau, ouvre grand la gueule, et la gazelle s'en va. « Espèce d'idiot, tu as fait partie ma proie !»« Ouh, me faites excuse, lui dit l'oiseau. Je vous avais pris pour un morceau de bois. »« Un morceau de bois ? Moi ? Le beau crocodile du Nil ? Non, mais... »« Si je peux me permettre, c'est que vos dents, elles sont drôlement sales. Mais si vous voulez, je peux vous les nettoyer. » Et voilà que quelques instants plus tard, on voit sur la berge Krakos, le crocodile du Nil, la gueule grande ouverte, et un petit oiseau qui est en train de nettoyer ses dents. Ou ce qui en a les choses dans ses dents, il se régale. Eh bien, jamais on n'avait vu quelqu'un dans la gueule de Krakos sans se faire dévorer. Quand l'hygiéniste dentaire a terminé son travail, eh bien, il veut s'en aller et Krakos lui dit « Ah, ça fait du bien, est-ce que tu reviendras ?» Et le petit oiseau lui dit « Oh, mais oui, quand tu voudras. » Et il s'envole. Et puis Krakos, il réfléchit, il dit « Non, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? D'habitude, j'ai besoin de personne. Quand j'ai froid, je me mets au soleil. Quand j'ai chaud, je vais dans l'eau. Et quand j'ai faim, eh bien, quand j'ai faim, je dévore une gazelle. Et puis quand je m'ennuie, ben je m'ennuie. Et si tu t'ennuies, tu peux m'aider ? » Décrit un petit singe qui est sur l'arbre et lui envoie une noix de coco dans la gueule. Et Krakos, lui, il l'écrabouille complètement. Et le singe lui en envoie une autre en lui disant « Mais pas si fort !» Dans la gueule de Krakos, il fait tout doucement cette fois, il casse juste la noix de coco. Le petit singe descend, va chercher sa noix de coco et se place juste au bout de la gueule de Krakos. Et c'est la deuxième fois que quelqu'un se met tout près de la gueule de Krakow sans être dévoré. Soudain, une tortue de terre arrive. Quelle belle journée! Vous ne trouvez pas? Eh bien, moi, j'aimerais bien aller de l'autre côté de la rive parce que l'herbe est bien plus verte. Mais mon malheur, je ne sais pas nager. Oh, ben moi, je peux t'y emmener, dit Krakos. Justement, j'allais y aller. Et voilà, quelques instants plus tard, on voit un drôle de radeau sur le Nil. Krakos et la tortue. Et bien sûr, le petit singe s'est aussi invité. Et le petit oiseau sur son crâne. Et voilà que ce drôle de radeau est sur le Nil pour aller sur la berge en face. Mais soudain, Krakos s'arrête. Et mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, dépêche-toi. Chut. Vous allez de nouveau la faire fuir. Il y a la gazelle dorée, là, en face. Et pas du tout, tu vois pas, elle t'attend, lui dit le petit oiseau. Ah bon, tu crois? Si, si. Alors Krakos va se mettre au bord de la berge, fait descendre tous ses passagers qui repartent dans la savane. Et lui, Krakos, continue sa route pour aller vers la gazelle. Ouais, et le crocodile, Krakos, il plante ses yeux dans les yeux de la gazelle. Et il lui dit, belle gazelle, est-ce que je rêve? Elle répond, non, Krakos, tu ne rêves pas. Le 39792e jour de sa vie, un crocodile n'a plus peur d'être gentil. Ah, c'est donc ça, 39792 jours, déjà. Oh, ma belle gazelle, est-ce que ce jour, je peux le passer avec toi? Et la gazelle ne répond pas. Pour toute réponse, elle plante son museau à côté de celui de Krakos et elle commence à boire un feu. Et lui, il commence à raconter toutes les histoires qu'il a entendues au bord du Nil, pensé plus de 100 ans. Il en a des choses à dire. Et il passe là toute la journée, les yeux dans les yeux, la gazelle écoutant, Krakos racontant. Et le soleil, lui, fait toute sa course. Tout à coup, le ciel devient tout rouge. Et sans un mot, Krakos plonge dans les profondeurs du Nil, le cœur léger, heureux. Et la gazelle s'en va sur ses quatre sabots délicats, toute légère. C'était un jour comme les autres, mais peut-être. Ainsi s'en vont les contes. Sur la tête, le ciel. Non, c'est pas ça. Ainsi s'en vont les contes. Le ciel sur leur tête et la lune dans leurs mains.